Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h, passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir dans votre émission littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et tel que nous l'avons commencé samedi dernier, je vous propose de poursuivre la rétrospective 2025 d'un certain nombre des émissions que vous avez pu entendre l'an passé. Alors au sommaire de notre émission, vous réentendrez les souvenirs d'un petit Parisien qui venait en vacances auprès de sa tante et de son oncle dans le Morvan, très précisément dans un hameau de Ouroux en Morvan, petit village de la Nièvre. Je veux parler d'Alain Barouin que nous avions rencontré l'an passé et qui a fait paraître aux éditions de l'Harmattan un remarquable essai sur la diversité du Morvan intitulé « Méandre vagabond d'un amoureux du Morvan ». Nous réentendrons le romancier et journaliste à Europe 1 Nicolas Caro. Et puis, vous aurez la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur la déportation à Auschwitz et sur le bloc 10, où étaient pratiquées des expérimentations des médecins nazis sur les femmes, des expérimentations qui notamment concernaient la stérilisation de femmes. Rachel Mourier, qui a fait paraître aux éditions du Seuil en 2024 un premier roman intitulé Petite Lisa, nous en entendrons quelques extraits aujourd'hui dans Wagon Livre. Nous entendrons également le prix Interallié 2024, Thibaut de Montaigu, prix Interallié obtenu pour un récit intitulé Cœur aux éditions Albin Michel. Il s'agit de l'histoire de l'arrière-grand-père Louis, du romancier mort héroïquement à la guerre le 30 août 1914. Il est journaliste, éditorialiste, politique, aujourd'hui un petit peu en retrait des médias, mais nous l'avons souvent entendu sur des chaînes de radio, je pense RTL, et vu à la télévision, France 2 ou BFM TV. Je rappellerai d'ailleurs que de 2002 à 2005, il a animé très régulièrement une émission qui avait pour titre 100 minutes pour convaincre. Vous l'avez sans doute reconnu, je veux parler du journaliste Olivier Mazerolles, qui a fait paraître l'an dernier aux éditions Ballant un roman intitulé « Crime et abandon ». Mais nous allons ouvrir notre émission avec Loïc Le Goff. Alors Loïc Le Goff, nous l'avons rencontré l'an dernier pour un roman qu'il a fait paraître aux éditions Mutine et qui a pour titre « À la fortune du pauvre ». Loïc Le Goff a obtenu en 2022 le prix du Morvan Henri Perrichot pour un remarquable roman intitulé Le Grand Détour. Loïc Le Goff, qui est né dans le Morbihan et qui a grandi à Saint-Malo et qui s'est investi durant de très nombreuses années pour les communautés Emmaüs, notamment dans la Nièvre. En 2009, Loïc Le Goff a fait paraître Compagnon de l'abbé Pierre avec une préface de Lambert Wilson, et je ne pouvais m'empêcher au cours de l'échange que j'avais mené avec lui durant l'été 2025, je ne pouvais m'empêcher de lui demander de revenir sur les affaires qui avaient entouré et abîmé l'image de l'abbé Pierre. Loïc Le Goff, dans un extrait d'un Wagon Livre diffusé courant août 2025.
Bon, c'est vrai que j'ai fait partie, on peut dire, du premier cercle. Je le connaissais bien. Il venait me voir souvent, soit quand j'étais responsable à Nevers, soit lorsque j'étais responsable à Toulouse. Je connaissais, comme beaucoup, les petits travers de l'abbé Pierre. Bon, il s'en était pas caché, hein, lui-même. Hein, donc, il a les coups de contrat dans certains de ses engagements en particulier sur le plan sexuel. Bon, il en avait parlé, il l'avait écrit même. J'avoue que je m'en amusais même. J'ai jamais été un croyant. J'ai bouffé du curé même, et bon, et ce côté le rendait presque sympathique, quoi. Par contre, même si tout le monde a un jardin secret, et lui il en avait un, mais c'était une jungle. Et ça, je ne connaissais pas. Ça, je ne le savais pas. Et là, j'avoue que j'ai pris une claque, une grande claque. Entre l'abbé Pierre draguant maladroitement, et l'abbé Pierre ayant un comportement quand même déviant, il y a un fossé quand même. Et ce fossé, là, il a été franchi, et j'avoue que j'étais plus que déçu. Même encore une fois, si je sais que, pour avoir fréquenté beaucoup de gens qui avaient un passé difficile à porter, même si je sais que, encore une fois, chacun un jardin secret, lui, c'était vraiment une jungle. J'ai pris une claque, oui. Voilà.
Je ne pouvais m'empêcher de vous demander tout de même ce que vous aviez éprouvé. Et c'est triste et dommage pour l'image de l'abbé Pierre. Moi aussi, ça m'a fait de la peine. Savoir, par exemple, qu'on a débaptisé certaines places, oui. Le fallait-il pas certain non plus.
C'est dommage certainement pour l'abbé Pierre, mais ça c'est lui qui choisit là. Il a choisi d'être cela, hein, donc c'est surtout dommage pour le mouvement.
Un extrait d'un wagon-livre diffusé le 23 août 2025. Vous avez pu entendre Loïc Le Goff avec lequel je m'entretenais pour son dernier roman, intitulé « À la fortune du pauvre », paru aux éditions Mutine. Je rappelle que les éditions Mutine est une maison d'édition associative créée par Marie-Thérèse Mutin, une maison d'édition installée en Côte d'Or. Plus de 30 ans d'existence, on aura d'ailleurs au cours de cette nouvelle année l'occasion de revenir sur l'histoire de cette maison d'édition associative avec sa créatrice, donc Marie-Thérèse Mutin. Ce sera dans les mois à venir. Cette fois-ci, toujours dans la rétrospective 2025 de votre wagon-livre, je vous propose de réentendre un extrait d'une émission diffusée le 3 mai 2025 avec le journaliste Olivier Mazerolles. Olivier Mazerolles qui a fait paraître l'an dernier un roman intitulé « Crime et abandon » et qui est toujours disponible d'ailleurs en librairie aux éditions Ballant. Olivier Mazerolles explique d'ailleurs comment lui est venue l'intrigue et le synopsis de ce roman.
Oui, alors cette idée de livre m'est venue en fait lorsque je dirigeais la rédaction de La Provence. À ce moment-là, il y a eu à Paris l'attentat de Charlie Hebdo. Et j'ai eu envie à ce moment-là d'aller rencontrer les jeunes des lycées d'enseignement professionnel des quartiers nord de Marseille. Ce sont surtout en classe terminale des jeunes gens déjà d'âge mûr, disons, hein, 18, 19 ans, parfois 20. Et ce sont des classes où, en dehors du prof, et encore, pas toujours, il n'y a pas d'Européens. Et donc c'était pour moi très intéressant de discuter avec eux. Je me suis rendu compte que en fait, on ne savait pas parler avec eux. Ça s'est toujours bien passé. Alors on me dira, c'était dans un lycée, alors dans plusieurs lycées. Enfin, ils étaient très nombreux parfois. Et puis, bien sûr, ça n'était pas dans la rue. Quand on parle avec eux normalement, en disant vous, chacun est dans son registre, mais registre de personnes qui ont envie de se parler et qui se respectent mutuellement. Et à partir de là, on peut aborder vraiment tout. Tous les sujets. Et je me suis rendu compte, surtout, qu'ils ne se connaissaient pas eux-mêmes, qu'ils ne connaissaient pas leur histoire. Ils sont français, bien entendu, de nationalité, mais c'est une nationalité qui est plaquée sur des personnalités qui n'ont pas été formées et qui sont travaillées sur le terrain par des personnes qui leur expliquent qu'en réalité, les valeurs qu'on leur inculque à l'école sont des valeurs destinées à pérenniser la supériorité coloniale de la France. Et évidemment, comme ils n'ont pas eux-mêmes, je dirais, le respect d'eux-mêmes, puisqu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur histoire, eh bien, ils sont comme une pâte molle à modeler. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais notre grande erreur, à tous, c'est qu'on ne s'est pas préoccupé de l'aspect culturel. On a certes accueilli ces familles, on les a logées, il y a les allocations familiales, bref, évidemment, on ne peut pas dire qu'on les a martyrisées, mais on les a logées toutes dans de mêmes endroits, où évidemment elles ont contribué à vivre selon leurs habitudes. Forcément, quand vous mettez des personnes qui ont certaines habitudes, eh bien, elles perpétuent leurs habitudes, puisqu'elles sont ensemble. Et les jeunes vivaient cette contradiction. Je me suis rendu compte de ça, qu'ils vivent cette contradiction entre ce qu'ils voient, leur façon de vivre chez eux et ensuite dans le quartier, avec l'occupation d'un certain nombre de gens, des frères musulmans et autres, plus ce qu'ils lisent sur Internet, évidemment. Une contradiction totale avec ce qu'on leur dit à l'école, sans qu'on ait pris la peine de leur dire d'abord, voilà d'où vous venez, voilà l'histoire de la civilisation à laquelle vos parents, vos grands-parents, vos aïeux ont appartenu, dans laquelle ils ont vécu, et qui montre que, contrairement à ce que vous pensez, l'affrontement n'est pas inéluctable.
À l'instant, Olivier Mazerolles, un extrait d'un wagon-livre diffusé le 3 mai 2025, un entretien au cours duquel Olivier Mazerolles revenait sur son nouveau roman sorti l'an dernier aux éditions Ballan, roman qui a pour titre « Crime et abandon ». Si vous venez de nous rejoindre, c'est votre émission littéraire Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous propose une petite et première virgule musicale dans notre rendez-vous et on se retrouve juste après avec le prix interallié 2024 Thibaut de Montaigu qui reviendra sur l'histoire héroïque de son arrière-grand-père Louis, mort lors de la Première Guerre mondiale, très précisément le 30 août 1914.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns des autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous avoir choisis en cette fin de matinée. Merci de la passer en notre compagnie. Rétrospective 2025, une sélection effectivement des grands moments de certaines des émissions que vous avez pu entendre l'an passé. Et cette fois-ci, je vous propose d'entendre le prix Interallié 2024. Je veux parler de Thibaut de Montaigu pour son roman et récit familial intitulé « Cœur » paru aux éditions Albin Michel. Dans la séquence que vous allez entendre, qui est l'extrait d'ailleurs d'une émission diffusée le 25 janvier 2025, Thibaut de Montaigu revient sur l'histoire de son arrière-grand-père, Louis de Montaigu, qui mourut lors d'une charge héroïque le 30 août 1914. Il a donc décidé de revenir sur le passé et l'histoire non seulement de sa famille, mais de ses ancêtres. Thibaut de Montaigu.
Tout commence quand, en effet, il me confie un beau jour sa chevalière, qui était en plus le dernier bien de valeur qu'il possédait au monde, parce qu'il était complètement ruiné, il avait des dettes partout, ses créanciers d'ailleurs m'écrivaient régulièrement pour me réclamer du blé. Et il me confie cette chevalière en plus dans une boîte à pansements. Alors là, les psychanalystes en feraient leur miel. Et il me dit, voilà, je te donne cette chevalière parce que j'ai peur qu'elle se perde. J'ai perdu la vue, c'est un foutoir chez moi. Voilà, j'aimerais que tu la gardes. Et il me dit, donc c'est un mouvement très émouvant déjà pour moi parce qu'il y a une sorte de passage de témoin. Voilà, il me donne la chevalière aux armes des Montaigu qui était dans la famille depuis de très nombreuses années. Il me dit, tu sais, c'est un miracle si on l'a encore en plus dans la famille, parce qu'elle appartenait évidemment à ton grand-père Hubert et également à ton arrière-grand-père Louis, qui est mort au premier jour de la guerre de 14 dans la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France. Ou à tout le moins, c'est ce que lui prétendait. Et il me dit, tu sais, ce Louis était un héros, il était capitaine aux hussards, il a chargé à la tête de ses 200 hussards, sabre au clair contre des mitraillettes et des canons allemands pour sauver un bataillon d'infanterie. Il est mort en héros, c'est une histoire incroyable, j'aimerais que tu écrives sur lui. Et donc c'est là où débute le livre, c'est que c'est en fait mon père, voilà, qui est un mourant, qui est fatigué, qui n'a plus la vue, qui me demande un peu comme une dernière volonté que je me mette à écrire sur ce glorieux arrière-grand-père, Louis de Montaigu, mort au combat au premier jour de 14, mais mort d'une manière assez mystérieuse, parce que la cavalerie ne combattait plus à l'époque. Évidemment, c'était complètement suicidaire de mener une charge avec des chevaux et des sabres contre des mitraillettes et des canons. Il était absolument certain que lui et ses hommes couraient, ou je devrais dire galopaient, à la mort. Et donc, lui-même avait l'intuition qu'il se cachait un mystère derrière cette charge, comme si Louis avait cherché à mourir de manière glorieuse.
Vous essayez de comprendre pour quelles raisons cet arrière-grand-père, monté sur son cheval dans une image un peu d'épinal du combattant français courageux contre l'ennemi héréditaire qu'est l'Allemand, cet homme est inconscient et pourtant il sait qu'il risque complètement sa vie. Et vous évoquez également un autre poète, alors une figure, un socialiste et également grand catholique, c'est Charles Péguy, qui est mort un peu dans les mêmes conditions, enfin en prenant des risques inutiles, j'allais dire.
Oui, alors il avait, disons, sans doute une vision romantique de la guerre comme mon arrière-grand-père. Et d'ailleurs, les deux sont morts quand même. C'est intéressant de le dire. Mon arrière-grand-père est mort le 30 août 1914. Charles Péguy le 5 septembre 1914, à la veille de la contre-offensive de la Marne. Donc on est avant la guerre des tranchées. Donc ils n'ont pas connu aussi l'horreur de cette guerre industrielle. Ils n'ont pas connu les gaz. Ils n'ont pas connu... Enfin, ce qu'ont pu vivre des centaines de milliers d'hommes pendant quatre longues années. Et ils sont morts avec cet idéal de la guerre, cet idéal chevaleresque, finalement. Voilà, là, ce sont. Faut se rendre compte quand même de ce que ça a été cette charge de cavalerie. C'est-à-dire qu'on est en pleine retraite française, tout le monde fuit partout, les villages brûlent tout autour, et eux s'alignent. Parfaitement, il aligne ses 200 cavaliers en rang, ils font sonner les trompettes, ils lèvent leurs sabres et partent au triple galop contre une batterie allemande qui était dirigée en plus par un ballon captif, ce qu'on appelle un ballon captif, c'était voilà, une sorte de montgolfière comme ça, avec un type avec des jumelles qui dirigeait le tir, donc il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais pour eux, il aurait tenu un discours en disant que là-haut, dans le grand ciel bleu, il y a de la place pour les héros. Donc c'est une vision de l'héroïsme qui va mourir après 14, moi je crois, après cette grande boucherie, après les gueules cassées, après ce suicide de l'Europe dont vous avez parlé. Et donc lui représente encore et incarne, même dans sa chair, tous ces siècles et ces siècles de chevalerie qui ont constitué l'histoire de France, en fait. Donc il est un peu le dernier représentant de ces chevaliers, et lui-même se vivait comme un chevalier.
Et d'ailleurs, puisque vous allez rencontrer un historien amateur, mais qui connaît très bien le sujet, qui vraisemblablement est un ancien militaire de carrière. Alors il y a cet épisode où vous-même, qui pratiquez l'équitation, vous avez le désir d'essayer de faire le même parcours que celui de votre arrière-grand-père en ce 30 août 1914. Hélas, la modernité fait que vous ne pouvez pas, malheureusement,
oui, c'est très drôle.
Revivre cela.
C'est un moment qui est assez amusant dans le livre. Il y en a d'autres.
Mais
en effet, j'avais le projet un peu fou de refaire le trajet de cette charge de cavalerie. Donc, on est entre les Ardennes et le pays de Reims et tout ça, et donc il se trouve donc j'avais ce projet de le faire même à cheval avec cet historien amateur, sauf que très vite je me rends compte que c'est plus possible de le faire puisque l'autoroute A34 passe en plein milieu du trajet de cette charge de cavalerie, et donc je vais marcher jusqu'à la glissière de l'autoroute A34 avec lui, et il va continuer à m'expliquer le déroulement de la charge et me pointer où étaient les bataillons, où était la batterie allemande, alors que j'ai les camions et les voitures qui passent à toute berzingue devant moi, que j'en entends rien, que évidemment ça n'a plus rien à voir avec ce qu'a vécu mon arrière-grand-père.
La voix de Thibaut de Montaigu, un extrait d'un wagon-livre diffusé le 25 janvier 2025. Thibaut de Montaigu, que j'avais rencontré à Dijon alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne pour son récit familial « Cœur » paru aux éditions Albin Michel et qui lui avait d'ailleurs valu le prix Interallié. Nous poursuivons notre wagon-livre avec une primo-romancière. Primo-romancière qui s'appelle Rachel Mourier. Le roman a pour titre Petite Lisa. Il est toujours disponible en librairie aux éditions du Seuil. Rachel Mourier est maîtresse de conférences à l'École pratique des hautes études à Paris. Et dans ce premier roman, elle revient sur le parcours d'une famille française qui est aussi une famille juive. En effet, dès 1942, Lisa doit se cacher dans un village de Côte d'Or, pas très loin de Flavigny-sur-Oserin, jusqu'à sa déportation à Auschwitz. Eh bien, dans ce roman, Rachel Mourier revient sur l'antisémitisme en France et en Europe, sur la déportation, notamment à Auschwitz, sur le bloc 10, et sur les expérimentations pratiquées par les médecins nazis sur des femmes, des expérimentations portant notamment sur la stérilisation des femmes. L'entretien de cette émission diffusée le 15 novembre 2025 sur Radion avec Rachel Mourier s'ouvre justement sur les raisons pour lesquelles l'auteur a décidé d'écrire ce premier roman.
Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que j'ai été très proche effectivement de personnes âgées qui ont vécu ces drames, mais en particulier une de mes amies les plus proches a été Francine Monod, qui est née Francine Jacob, qui est la cousine de Simone Veil. Et c'est vraiment une amie de très longue date. Et elle a perdu tout le monde. Elle n'est pas partie parce que c'était une enfant de 6 ans qui avait été placée à la campagne à ce moment-là, à Nice. Elle était en vacances avec toute la famille. Pas en vacances, elle se cachait avec toute la famille quand Simone Veil a été arrêtée. Et ensuite, toute la famille a été arrêtée. Mais Francine, elle, était à la campagne et n'a pas été arrêtée. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, moi qui ne suis pas juive, c'est sans doute pour Francine. Parce que on a très souvent parlé. Donc, elle est une personne, qui compte pour moi. Il y en a eu d'autres. Et une des personnes qui a fait que j'ai vraiment, non seulement écrit, mais publié, parce que le livre était en grande partie écrit, mais je n'osais pas le publier, justement parce que je ne suis pas juive et que c'est un sujet compliqué. C'est Boris Pahor, qui est un écrivain slovène que j'ai rencontré. Je l'ai rencontré quand il avait 101 ans à Ljubljana. C'est un homme qui est mort à 108 ans. Alors, en 101 ans, il avait une pêche incroyable. Et cet homme avait été déporté dans plusieurs camps au cours de la guerre parce qu'il était résistant. Et je lui ai parlé de ce livre, et c'est un écrivain, hein, Boris Pahor, un très très grand écrivain, il écrivait en slovène et en français. Et ce vieux monsieur m'a pris la main et m'a dit « Mais en fait, si c'est pas vous qui écrivez aujourd'hui de la fiction sur ce sujet, on sera plus là. » Voilà. Et dans les yeux de ce très vieux monsieur, hein, 102 ans, je voyais toute... l'énergie qu'il me donnait, l'autorisation qu'il me donnait à publier cette histoire que j'avais complètement imaginée.
Un extrait d'un wagon livre diffusé le 15 novembre 2025 sur l'antenne de Radio. Nous allons poursuivre l'échange avec Rachel Mourier, qui nous explique cette fois-ci ce qu'est Auschwitz, le bloc 10. Rachel Mourier.
Alors le bloc 10, c'est un bloc qui est essentiellement consacré aux expérimentations dont le but est la stérilisation. Moi, je ne me suis concentrée qu'à la stérilisation féminine, mais au bloc 10, il y avait stérilisation masculine et féminine. C'était trop compliqué dans le cadre du livre, donc je n'ai parlé que des femmes. Le premier travail que j'avais fait était beaucoup plus cru que celui qui reste. La partie est difficile, certes, mais donc... Lisa va être en contact avec des médecins qui sont là pour expérimenter des manières, ce que demandait Himmler, des manières en fait de stériliser les femmes afin que le peuple, parce que le Reich se rendait compte qu'ils n'arrivaient pas à éliminer, puisque c'était le terme, complètement les juifs. Donc il fallait à la source faire en sorte que les femmes n'aient pas d'enfants. Bon, d'ailleurs, c'est un sujet qui est encore actuel dans tous les lieux où il y a une oppression d'un peuple sur un autre. Quand l'oppression devient folle, les premières qu'on touche, c'est les femmes, et on les touche dans la procréation. Hein.
Dans le roman apparaît le docteur Joseph Mengele. Tout le monde le connaît, c'est cet horrible médecin nazi qui finalement n'a rien apporté du tout à la médecine, qui a utilisé les juifs comme des cobayes ou comme des animaux, encore que l'utilisation des animaux pour des expériences soit très contestable également. En tout cas, ces expériences sont menées sur des jeunes femmes dans le but de les stériliser. Et à un moment, petite Lisa se retrouve face à Mengele, et petite Lisa, elle est la juive poétesse. Et on lui demande... de réciter, de choisir, dans sa grande culture poétique et mémorielle, on lui demande de choisir un poème et de le réciter devant cet homme qui est présenté vraiment comme un être abominable. Et là, c'est très intéressant parce que c'est un peu culture contre barbarie. Ça peut paraître un peu facile, mais il y a ce savoir, cette intelligence, cette émotion, cette sensibilité face à une brute épaisse pour qui l'humain, et notamment quand il est juif, peut être massacré, mutilé, et dont la vie ne vaut rien.
Alors ce passage dans le roman est un passage assez fort parce que Mengele n'avait pas complètement sa place, peut-être, en tout cas pas dans le bloc 10. Hein. Il est juste de passage là pour aller voir ses collègues. Il ne travaillait pas, lui, au bloc 10. Mais il y vient, et là vous avez une scène qui est préparée assez longtemps à l'avance parce qu'il y a les deux médecins qui parlent de musique, donc une scène en fait de deux collègues, et puis au bout d'un moment ils lui disent mais viens, il faut que tu entendes la poétesse quand même, c'est incroyable, hein, faut imaginer cette jeune femme qu'on va appeler de temps en temps pour qu'elle récite sans accent un poème allemand. Et donc dans le roman, j'explique que la plupart des soldats qui viennent vont lui demander bien des poèmes qui seraient l'équivalent en fait de notre Ronsard ou de voilà. Et Mengele comprend qu'elle a l'habitude de réciter toujours les mêmes poèmes, et donc il va lui demander « Mais moi, je vous inspire quoi comme poème ?» Et là, elle a plein de poésies qui lui viennent en tête, et elle comprend plus ou moins qui il est, assez rapidement, parce qu'on ne lui a pas donné son nom, et elle va...
Vous pouvez nous lire peut-être le passage, Rachel, de cette petite juive récitant en allemand, donc un poème devant...
L'homme était d'une grande stature, avait des cheveux foncés et les yeux ronds de couleur marron. Elle pensa instantanément à l'ours danseur de Christian Gellert, en raison de ses yeux ronds, ou peut-être des chaînettes qu'elle avait vues un instant plus tôt accrochées aux bottes militaires que portait cet homme, ou peut-être encore à cause de la Pologne. Mais cela ne convenait pas à petite Lisa, car l'ours Petz, qui dansait sur l'air d'une Polonaise, était trop joyeux. Et surtout, il lui faisait penser à son père, qui aimait réciter ce poème en imitant le plantigrade débonnaire. Elle chassa vite ce souvenir. C'est le voyageur dans la Syrie, de Justinus Kerner, qui lui vint ensuite à l'esprit. Elle se le remémora rapidement. « C'est pour toi que ce bois, après ton bref voyage, fera de sous terre un écrin de repos. » C'était trop risqué. Klauberg s'impatientait. « Récitez donc le poème que le docteur Mengele vous inspire !» l'intima-t-il d'une voix forte. Ce fut immédiat, et aussi violent qu'une lame de fond. La colère l'envahit à nouveau et refoula toute pensée de mesure et de prudence. Petite Lisa n'était plus maîtresse d'elle-même. Sans réfléchir aux conséquences de son choix, elle annonça le poème qu'elle réciterait. « Les trois tziganes » de Nikolaus Leno. Ils avaient sur leurs habits des trous, des pièces de couleur. Mais ils se riaient moqueurs des destinées de ce monde. Ces trois-là, trois fois, m'ont montré, quand la vie se fait nocturne, comment, par trois fois sans rire, à fumer, jouer et dormir. Elle se tut et baissa à la tête. Après un silence qui dura un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû, Mengele lui ordonna de lever les yeux vers lui. « Vous aimez ces gens ?» lui demanda-t-il avec une grimace de mépris. « Ces gens qui ne font que fumer, jouer et dormir ?» Elle resta muette. « Répondez immédiatement au docteur Mengele, » dit Klauberg fermement. « Il y a peu de gens que je n'aime pas. »« Vous les aimez parce qu'ils sont comme les vôtres, » siffla Mengele avec dédain. « Ils sont vains et inutiles.
» D'abord, il y a ces crimes de médecin, parce que Lisa, elle s'organise. Bien sûr, il y a l'avancée des soviétiques. Mais petite Lisa, elle est rescapée, vous le savez, du camp. Donc à un moment, elle va fuir. Mais avant de fuir... elle veut garder des traces des crimes de ses médecins. Et en fin de compte, c'est le principe éthique d'Hippocrate a volé en éclats. D'ailleurs, à un moment, il me semble que ses médecins en parlent. Et tout le monde est un peu gêné. Il y en a un qui répond « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Finalement, ces expérimentations n'ont servi strictement à rien.
Alors, si... Tristement, c'est-à-dire l'un des professeurs qui travaillait au Bloc 10, que je cite et qui est dans ce roman, qui s'appelle Klauberg, est un des médecins qui a participé à la découverte de la pilule contraceptive. Il a été... je ne dis pas qu'il a découvert, mais il a participé aux découvertes. Il a été, juste après la guerre, il a été arrêté en fait par l'armée russe. Et il a été rendu, il y a eu un des échanges de prisonniers entre l'Allemagne et la Russie, il a été rendu à l'Allemagne, je crois en 54 ou quelque chose comme ça. Il a retravaillé ensuite et été arrêté encore un peu plus tard. En fait, plusieurs des médecins qui sont dans ce bloc 10 ont existé. Et lui, effectivement, a apporté une petite avancée à la recherche.
Je vous confie à nouveau le titre de ce premier roman de Rachel Mourrier, Petite Lisa, toujours disponible en librairie aux éditions du Seuil. Et puis je vous rappelle qu'il s'agit d'une rétrospective, mais que l'intégralité des émissions se retrouve sur le site d'archives de Wagon Livre, vous le savez désormais via internet, www.yannickpetit.fr. Je rappelle qu'il s'agit avec Rachel Mourrier d'une émission qui a été diffusée le 15 novembre 2025. On se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de marquer un nouvel intermède musical. C'est Wagon Livre jusqu'à midi sur Radion. Juste après la virgule musicale, nous entendrons un romancier qui est également journaliste à Europe 1. Je veux parler de Nicolas Caro. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après la petite virgule musicale que nous vous proposons.
On dort les uns contre les autres.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous poursuivons notre rétrospective 2025 des grands moments de votre émission littéraire. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio. Nous allons maintenant écouter le journaliste et romancier Nicolas Caro. Nicolas Caro qui a fait paraître un premier roman en 2022 chez Lattès, roman qui avait pour titre « Un homme sans histoire ». L'an dernier, nous l'avons rencontré pour son deuxième roman, toujours chez Lattès, intitulé « L'affaire Alfred Langevin ». Et dans l'extrait que vous allez entendre, il s'agit d'une émission qui a été diffusée le 12 avril 2025 sur l'antenne de Radion. Dans l'extrait que nous allons vous faire réentendre, Nicolas Caro revient sur son travail et sur son ancienneté, sur cette grande antenne nationale qu'est Europe 1. Nicolas Caro.
Ça fait 18 ans que je travaille à Europe 1. Je m'occupe des livres depuis 12 ans, des livres exclusivement. J'ai une émission littéraire comme vous, Yannick, mais moi c'est le dimanche soir, qui s'appelle La Voix et Livre, La Voix V-O-I-X. La Voix et Livre, où je reçois des écrivains et où je vais visiter des bibliothèques. Je vais chez des gens, j'ouvre la porte et on prend chacun un micro, on se met devant les bibliothèques et on fouille dedans. Et pourquoi ce livre est tout abîmé? Pourquoi celui-ci est tout neuf? Et quel était le premier, comment c'est rangé, etc. Je m'amuse beaucoup. Ça dit beaucoup de choses, les bibliothèques, sur les gens, en fait. Moi, quand je rentre chez quelqu'un, quand je suis invité, c'est un peu indiscret, mais la première chose que je fais, c'est de regarder les bibliothèques.
Et souvent, quand il y en a.
Et quand il y en a, mais souvent il y en a. Et ça arrive aussi que les gens soient un peu... Oh là là, attends, j'ai pas rangé, ou c'est pas tout à fait mes livres. C'est toujours étonnant et toujours intéressant. Et ce livre-là, pourquoi ? Et alors, ah tiens, d'accord, ah, je pensais que tu lirais plutôt des choses comme ça. Et ça dit beaucoup de choses de ce qu'on lit sur les gens. Et donc, j'ai aussi une chronique le matin de livres, de romans chaque jour. Et donc, ça me fait 3 à 4 romans à lire par semaine. C'est un chouette métier, c'est pas la mine. Hein.
Bravo, hein, 3 à 4 livres par semaine.
Mais je fais que ça, en plus d'écrire. J'ai toujours été fasciné par la figure du masque de fer, en lisant, très simplement, en lisant Les Trois Mousquetaires quand j'avais 10-12 ans. Alors, le masque de fer n'arrive pas dans le premier tome des Trois Mousquetaires, pas non plus dans 20 ans après, mais dans Le Vicomte de Bragelonne, qui est quand on retrouve les mousquetaires à l'âge de 55-60 ans. On a l'histoire à la Dumas du masque de fer, c'est-à-dire que ce serait un jumeau du roi Louis XIV qui s'appellerait Philippe et qui avait été mis au secret évidemment à cause de sa ressemblance, et ça m'a fasciné. Et j'ai demandé à mon père qui était historien, je lui en ai parlé, il m'a dit mais tu sais qu'il a existé l'homme au masque de fer, simplement c'était sans doute pas le jumeau du roi, mais on sait qu'il y avait un prisonnier masqué dans les prisons du royaume. Ça m'a complètement bouleversé, cette histoire. J'y pensais beaucoup quand j'étais enfant, j'achetais des livres sans vraiment avoir la capacité de les lire tout de suite, des livres d'histoire scientifique hein, sur l'homme au masque de fer, notamment les livres de Jean-Christian Petit-Fils, de Jean Materne, etc., qui défendaient chacun des théories. Et puis à un moment où j'ai eu l'occasion de publier mon premier livre, j'avais une trentaine d'années, et j'ai rencontré un éditeur, Guillaume Dervieux, à qui j'ai demandé qui m'a demandé si j'avais un truc à dire, un livre à publier. Je lui ai dit ben moi je voudrais travailler sur le masque de fer. Ça m'a pris 3 ans. J'ai compilé les centaines de livres qui existent sur le sujet. J'ai fait en fait pas un livre qui défend une nouvelle thèse, mais toutes les théories sur le masque de fer, des plus farfelues aux plus sérieuses. Il y en a 52 en tout. Alors il y en a qui se regroupent, hein, donc j'ai fait une quinzaine de chapitres à peu près qui correspondent à certaines théories. Et voilà, et ça m'a un peu libéré de ce fantôme du masque de fer qui me hantait. Et je suis assez heureux aujourd'hui de faire partie des connaisseurs de cette affaire qui est en fait tentaculaire, hein. On a des dizaines de centaines de documents sur l'affaire. Il faut trier, c'est très très complexe. Alors c'est pas le jumeau du roi, mais c'est fascinant comme histoire.
À l'instant, le romancier Nicolas Carreau, l'extrait d'un wagon-livre diffusé le 12 avril 2025. Nicolas Carreau qui a fait paraître l'an passé un roman intitulé « L'affaire Alfred Langevin » aux éditions Lattès, son premier roman paru en 2022. Toujours chez Lattès, a pour titre « Un homme sans histoire ». Je rappelle que vous entendez des extraits de Wagon Livre, mais l'intégralité des émissions se trouve sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre rétrospective 2025, juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer. Vous entendrez Alain Barouin, extrait d'un wagon-livre du 19 juillet 2025. Alain Barouin qui a signé en avril 2024 aux éditions de l'Harmattan un essai sur la diversité du Morvan. Ouvrage très intéressant et très riche, intitulé « Méandre vagabond d'un amoureux du Morvan » dans la séquence que nous allons vous faire réentendre. Eh bien, Alain Barouin évoque les souvenirs de petit Parisien alors qu'il allait en vacances chez sa tante et son oncle dans la Nièvre, dans le Morvan, dans un hameau de Ouroux en Morvan, pas très loin du lac de Pansière. Pause musicale dans Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Quitter de va dévorer l'autre le premier, car pour ne faire plus qu'un faux. pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, quitter de va dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser. Un peu, doucement, quelque part. À la folie, 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 à la folie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Comme je l'avais annoncé avant la virgule musicale, nous allons maintenant entendre Alain Barouin. Alain Barouin a fait paraître en avril 2024 aux éditions de l'Harmattan un essai intitulé « Méandre vagabond d'un amoureux du Morvan ». Alain Barouin est né à Paris en 1947, il a fait toute sa carrière à la Poste, il a été cadre supérieur. De 85 à 88, il fut le directeur départemental de la Poste de la Nièvre. On rappellera qu'il a été le président de l'association régionale La Morvandelle de 1997 à 2014. Il fut également le rédacteur en chef du Morvandio de Paris. Et dans ses méandres vagabonds d'un amoureux du Morvan, eh bien de Paris jusqu'à Autun, il nous fait voyager dans le temps, l'espace, les us et coutumes, la mémoire, l'imaginaire au hasard du vécu de l'auteur, et nous allons l'entendre là dans un extrait d'un wagon-livre diffusé le 19 juillet 2025, revenir sur les souvenirs du petit Parisien qui allait en vacances chez son oncle et sa tante à Savaux, un des 25 hameaux de la commune d'Ouroux en Morvan. Alain Barouin.
J'y suis allé des années 50 à fin des années 60.
Alors vous avez connu la batteuse, la moissonneuse-batteuse.
J'ai un souvenir de l'avoir connue chez mon oncle, je devais avoir 7 ou 8 ans, et je le décris. Alors, je le décris, je n'avais pas écrit à ce moment-là, donc c'est à la fois des souvenirs et puis un peu d'imagination.
Alors, en fait, vous dites que vous conservez de cette moissonneuse-batteuse, bon, le bruit est une sorte de rituel de l'activité des hommes. Il y a aussi la pause, le repas, les femmes qui servent les hommes mangent d'abord.
C'est tout à fait à la mode, ça.
Hein, oui, effectivement. Et les femmes mangent après avoir servi les hommes entre elles. Et cette moissonneuse-batteuse semblait manger le foin, enfin ce qu'on lui donnait, vous faisait peur et vous fascinait à la fois.
Tout à fait, parce que j'étais pas grand, hein, et puis c'est une immense machine. Machine à vapeur d'ailleurs, hein, et donc il faut, j'admirais un peu la force de tous ces hommes qui portaient les sacs de grains après sur le grenier. Hein, donc. C'était à la fois fascinant, puis c'était un peu la fête aussi. Hein.
C'est ça, c'est ce rituel, cette convivialité des gens simples dans l'amitié, dans le partage, la solidarité et l'entraide.
Voilà,
aussi.
Tout à fait, c'était l'entraide. Oui. L'entraide sans avoir d'échange d'argent.
J'aimerais que vous nous parliez d'un animal, un petit bourrou, et expliquer ce que, en langue morvandelle, signifie le bourrou.
Je crois que ça vient d'un mot arabe, il me semble. Il faudra vérifier. Ben, c'était un âne. Un âne qu'avait mon oncle. Et il allait dans les champs avec sa carriole à âne. Il n'allait pas me chercher à Corbigny avec son âne, quand même. Hein. Mais j'adorais me promener avec, enfin, aller avec lui, avec son âne. Il me paraissait très grand, cet âne, parce que comme j'étais pas très grand, j'étais petit, alors qu'en fait, il devait pas être très très grand.
Et il avait un nom particulier ?
Il s'appelait Clairon. Et il se trouve que la maison de mon oncle a été vendue par sa belle-fille qui en avait hérité, qui était... Enfin, sa maison a été vendue, et il se trouve que
j'ai rencontré le nouvel acquéreur, je crois que c'est une personne d'origine belge, il y a 2 ou 3 ans, et je lui ai expliqué que je venais en vacances là, il m'a fait rentrer, et puis dans l'écurie, il me dit, mais votre oncle jouait de la musique, car il y avait encore marqué sur une poutre le mot clairon, c'est là que mon oncle accrochait le collier de son âne. Alors je lui expliquais non, qu'il jouait pas de la musique, mais c'était le nom de son âne.
J'aimerais que nous revenions alors cette fois-ci à votre tante, la tante Valentine, qui allait laver son linge d'ailleurs au lavoir d'Ouroux en Morvan, parce que dans le Morvan, vous êtes un petit garçon, c'est le monde agricole. Vous êtes un petit Parisien qui vient pendant combien de semaines restiez-vous en vacances en Morvan ?
En général, j'y venais. On n'avait pas toutes ces vacances un peu trop nombreuses à mon goût. Mais enfin bon, c'est comme ça. On avait 15 jours à Noël, 15 jours à Pâques et 3 mois à l'été. Mmh. Et je venais en général 15 jours à Pâques et 1 mois à l'été.
Alors il y avait l'âne Clairon, d'accord, il y avait l'oncle Georges. Il y a cette vie à la ferme dans cette localité d'Ouroux en Morvan, un peu au nord de Château-Chinon, dans un cadre naturel magnifique. Et qu'est-ce que vous mangiez? Parce qu'on ne mange pas dans le Morvan comme à Paris. La tante Valentine ne vous faisait-elle pas découvrir des choses spéciales?
Alors là, ce que j'aimais beaucoup de ma tante Valentine, c'était les grappiots.
Alors qu'est-ce donc?
Les grappiots, ce sont des crêpes salées, en quelque sorte. Il se trouve que dans le livre, j'en donne la recette, mais j'ai été aidé beaucoup par ma femme pour cette partie-là du bouquin.
Alors, est-ce que vous êtes membre de la confrérie des mesous de grappiots?
Exact, depuis quasiment l'origine, mais elle ne fonctionne plus bien. C'était François Dumarais, qui a été maire de Planchers.
Restaurateur aussi?
Restaurateur, maire de Planchers, accompagné de Michel Salès, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, qui ont créé cette confrérie des mesous de grappiots, des mangeurs de grappiots, et qui a intronisé un certain nombre de personnalités du Morvan.
Alors, votre tante Valentine vous faisait à côté des on dit les grappiots, comme les crapiots aussi.
Alors, ça dépend des coins, parce que vous parliez du patois. La caractéristique de la langue morvandelle, en quelque sorte, c'est qu'elle est différente, je dirais, presque d'une commune ou voire d'un canton à un autre. Et il y a un excellent livre érudit écrit par Claude Régnier qui parle justement de la langue morvandelle et qui distingue les différentes façons de l'écrire plutôt et de le prononcer selon, il y a des cartes, selon l'endroit où on se trouve. Donc on dit des crapiots. Moi ici à Ouroux c'était des grappiots.
Oui. Alors la tarte à la semoule, là partout on prononce la même chose, la tarte à la semoule.
À la semouille.
À la semouille.
Oui, c'était. Ben, y avait ma tante qui en faisait, puis après quand je me suis marié, ma belle-mère aussi en faisait des excellentes.
Alors on a bien sûr quelques grandes figures de la gastronomie en Morvan. J'allais dire, j'invite tout le monde à tourner ses regards vers Saulieu.
Vers Saulieu.
Bien sûr, c'est Bernard Loiseau.
C'est Bernard Loiseau, et puis heureusement, il a des successeurs. Il y a eu sa femme, et je crois que c'est ses enfants maintenant, ou sa fille, qui ont pris la succession. Il se trouve qu'hier, on a emmené notre petit-fils à Vézelay, et en passant à Saint-Père, on est passé devant l'Espérance, qui était un excellent restaurant de plusieurs étoiles de Marc Menot, qui est dans un état de décrépitude. Enfin, le restaurant est dans un état de décrépitude. Alors, triste.
Il y a des acheteurs, normalement, il y a un projet, quelque chose devrait surgir.
Il faut
être patient, Alain.
J'y suis passé hier, il n'y avait pas grand-chose n'y avait pas de chantier, quoi.
Et si alors, j'ose dire. Vous le saluez aussi dans votre ouvrage. C'est un restaurateur qui est toujours en place, très connu pour sa poêlée de champignons. C'est du côté de Carré-les-Tombes.
Ah, ben bah, c'est Francis Salamola.
Lui, alors, sûr. Voilà un bel ambassadeur du Morvan, me
tout
semble-t-il.
À fait, d'autant
avec
plus.
Avec d'autres.
D'autant plus qu'il préside l'association du tourisme en Morvan.
Avec une énergie et un enthousiasme régulier.
Tout à fait. C'était une très bonne adresse à des prix relativement raisonnables par rapport aux deux adresses qu'on a indiquées tout à l'heure.
Un extrait d'un wagon-livre diffusé le 19 juillet 2025 sur l'antenne de Radion avec Alain Barouin. Alain Barouin qui a fait paraître en avril 2024 aux éditions de l'Harmattan un essai sur la diversité du Morvan. Un ouvrage absolument passionnant intitulé « Méandre vagabond d'un amoureux du Morvan » est toujours disponible en librairie. Nous allons marquer un dernier intermède musical dans votre émission littéraire. Je vous propose tout de suite « Les mots bleus » interprété par Christophe. On se retrouve juste après pour se saluer et pour vous annoncer le sommaire de l'émission de la semaine prochaine du samedi 31 janvier 2026, bien sûr sur votre radio locale sur Radion.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril.